Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. À l'heure où nos partis politiques s'affolent pour respecter la parité à l'occasion des législatives, il nous a semblé bon de jeter une oreille sur la place des femmes dans l'histoire de la musique et plus particulièrement dans l'écriture. Parce que spontanément, on pense tout de suite aux chanteuses qui ont inspiré Mozart, voire aux clavecinistes des miniatures du XVIIIe siècle, ou encore aux joueuses de oud chez les orientalistes du XIXe. Mais pour ce qui est des femmes compositrices, c'est plus compliqué. Si je vous demande de me citer quelques noms, vous êtes bien en peine, pas vrai? À part Clara Schumann, qui porte en plus le glorieux patronyme de son conjoint, on est un peu sec, avouons-le. Qu'en est-il? Pourquoi si peu de femmes dans la noble confrérie des compositeurs? Nous évoquerons la thèse de Pascal Quignard, l'auteur de Tous les matins du monde et de la leçon de musique, qui nous dit que l'homme est compositeur par défaut pour contrebalancer le pouvoir vocal et absolu de la femme. Mais surtout, nous allons voir qu'à l'origine du geste du compositeur, les femmes sont là, et bien là, à tel point qu'elles ont fait, dès l'Antiquité, école. Alors, tous à vos cahiers, on va faire une dictée de solfège, mais d'un solfège amoureux, bien sûr.
France Inter, les routes de la musique. André Manoukian.
Sia qui nous chantait The Greatest, vous êtes bien sur France Inter. Nous avons les courtisanes en vue du plaisir, les concubines pour nous fournir les soins journaliers et les épouses pour qu'elles nous donnent des enfants légitimes et soient les gardiennes fidèles de notre intérieur. Cette phrase ne vient pas d'un riche bourgeois parisien contemporain de Flaubert qui vivait dans l'ouest de Paris, du côté de Neuilly, et entretenait ses maîtresses dans l'est, du côté de Vincennes, pour être sûr qu'elles ne se croisent pas chez le coiffeur, non. Non, cette phrase vient de la Grèce antique et date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi, certaines choses ne changent pas. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, les femmes grecques, même mariées, ne sont pas citoyennes et n'ont aucun droit dans la cité. Les petites filles ne vont pas à l'école, elles sont mariées sans leur consentement dès l'âge de 15 ans. Alors pour prendre le pouvoir, les femmes ont deux options, la séduction ou la religion. Certains cultes leur sont réservés, notamment un des plus joyeux, qui va réunir les deux options si je puis dire, le culte de Dionysos, le dieu du plaisir, des libations et de la danse. Petit rappel mythologique, ça faisait longtemps. Dionysos est le fils adultérin de Zeus et d'une mortelle Sémélée. Pour l'éloigner de la vengeance d'Héra, la femme jalouse de Zeus, il est confié à des nymphes sur une montagne. Ces nymphes sont des divinités subalternes qui honorent la nature. Elles vont être les nourrices de Dionysos. Elles vont l'accompagner jusqu'à ce qu'il grandisse. Et elles vont se transformer en ménades, du grec mainomai, qui veut dire délirer, être furieux. Oui, les ménades sont furieuses et ivres, avec leurs mouvements convulsifs, la flexion du corps en arrière, leur danse violente jusqu'à l'épuisement. Elles représentent le symbole du déchaînement frénétique des désirs multiples et de la libération à l'égard de toute inhibition. Les prêtresses de Dionysos vont former une école, des groupes de femmes que l'on appelle les thiases, et à l'intérieur desquelles elles vont apprendre la danse, le théâtre, la poésie et la musique.
Enfin, tout le monde ne voit pas les choses de cette façon et évoque l'école des thiases comme une école de dévergondage. Panthée, roi de Thèbes, est de cela. Et Panthée prend la parole parce qu'il n'est pas, mais alors, pas du tout d'accord avec ce que vous dites, André.
J'apprends qu'un mal étrange se propage en cette ville. Nos femmes ont quitté nos demeures pour se mêler au délire simulé des bacchantes. Elles vagabondent sur les montagnes ombreuses et par des cœurs célèbres Dionysos.
C'est Euripide qui nous donne à entendre la voix de Panthée dans les bacchantes en 405 avant Jésus-Christ.
Elles vont se blottir pour se livrer aux étreintes des mâles et proclamer ainsi qu'elles sont des ménades accomplissant leur rite.
Panthée continue de dire
« Non, 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 ce n'est pas possible, ces femmes !»
On parle aussi d'un certain enchanteur étranger, magicien, venu des terres de Lydie. Il s'unit, dit-on, aux jeunes filles pour les initier au mystère doux et joyeux d'Évios.
D'Évios, d'Évios.
Il affirme qu'il est le dieu Dionysos. Cet étranger, quel qu'il soit, n'est-il point digne de la strangulation ? Vous autres, dépistez, en allant par la ville, cet étranger aux formes féminines qui transmet à vos femmes une peste nouvelle et qui souille vos lits.
Eh ben, il y va fort, Panthée. C'est que la libération des femmes, ça en inquiète plus d'un. Et là, justement, qui va là ? Une femme arrive en dansant et en chantant.
Oui, Elsa, c'est Sappho, une des plus célèbres figures de ces groupes de musiciennes érudites, et la poétesse. Sappho qui vécut sur l'île de Lesbos en 600 avant Jésus-Christ.
Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high, don't go screaming if I blow you with a bang. I'm going, gonna have you trembling.
Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well.
My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio.
Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing light. On it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it.
My chain hits my
chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't get screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see. Swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down.
Bad Girls chanté par Mia.
France Inter. Les routes de la musique. André Manoukian.
Oui, la situation de la femme dans l'Antiquité semble déjà dessiner la dualité que produit le monde patriarcal. D'un côté, les femmes destinées au plaisir, savantes et charmeuses, et de l'autre, celles destinées à la reproduction. Les Thias sont des groupes de femmes affranchies, éduquées, célébrant le culte dionysiaque et pratiquant l'amour entre elles. Dans la Grèce du VIe siècle, où l'homosexualité était une norme, les pratiques féminines étaient cependant très différentes des pratiques masculines. En effet, la pédérastie entre hommes se vivait comme un enseignement, une forme de pédagogie qui unissait un maître d'âge mûr et expérimenté à son disciple, un jeune homme imberbe qui apprenait en même temps que le savoir, l'amour. Or, entre femmes, rien de tout ça, pas de valeur pédagogique. Deux jeunes filles du même âge pouvaient avoir des relations amoureuses qui allaient jusqu'au mariage. Dans cette institution réservée aux filles, on cultive et on développe son éros par la recherche de la beauté du corps aussi bien que de l'esprit. Les élèves apprennent le théâtre, les mystères d'Aphrodite, la danse, le chant, la poésie. Elles viennent de tout l'Empire grec, elles ont des échanges. Le tout les amène à avoir une forme de pensée bien différente des codes habituels. En un mot, elles acquièrent le savoir et une émancipation, d'où une certaine indépendance vis-à-vis des lois et coutumes de la cité. Entre elles naît la philia, ce sentiment d'amour-amitié jusque-là réservé aux hommes. Il n'y a plus de dominants et de dominés, comme dans les couples hétérosexuels, ou d'érastes et d'éromaines, comme dans la pédérastie. L'éraste était un citoyen influent, le plus souvent marié et père de famille, jouissant d'une certaine fortune, engagé dans un couple avec un adolescent appelé son éromène. L'éraste est chargé de l'éduquer jusqu'à la période de probation, clôturée par un grand banquet, au cours duquel on sacrifiait un bœuf à Zeus, puis on offrait un équipement militaire à l'éromène pour signifier que désormais il était un guerrier pouvant défendre sa cité. Enfin, une coupe qui signifiait qu'il pouvait désormais partager les banquets. Tout ça coûtait fort cher, il fallait être fortuné pour s'offrir un éromène. Rien de tel chez les filles, pas d'aînés qui initient les plus jeunes à la passivité, mais deux êtres semblables qui s'aiment en dehors des codes établis et n'obéissent qu'à la nature et aux dieux, en l'occurrence à la déesse de l'amour, Aphrodite.
Écoutons donc l'ode à Aphrodite de Sappho, qui est le plus complet des textes que l'on ait retrouvé d'elle.
Aphrodite, fille de Dieu, ô tisseuse immortelle au trône étincelant, ne laisse pas mon cœur. Si jamais naguère tu as su m'écouter, entendre au loin ma voix, alors que tu quittais pour accourir vers moi la maison dorée de ton père. De rapides moineaux à ton char attelé t'emportaient tout autour de notre sombre terre. Et vite ils étaient là. Et toi, ô mon bonheur, d'un sourire éclairant ton visage immortel, tu demandais le nom de ma neuve douleur et pourquoi mon appel. Cette fois encore, viens à moi. Rends-moi libre de ces soucis amers sous lesquels je m'abats. Fais tout ce que mon cœur désire pouvoir vivre. Sois mon compagnon de combat.
Sappho convoque Aphrodite, les femmes s'unissent à Sappho et la bande de filles part chercher les senteurs de la liberté.
Oui, l'enseignement de Sappho est pour les filles une véritable initiation à la liberté. Mais qui était cette poétesse transgressive dont le nom est devenu un adverbe puisqu'on parle d'amour saphique et dont l'île d'origine, Lesbos, va donner par antonomase le qualificatif de lesbienne.
Je tombe des nues, je suis perplexe et me voilà dans de beaux draps. Je cède, est-ce la faute de la Bex? Si je suis tombée dans ses bras, elle me plaît.
La la la, Anaïs qui nous chantait « Elle me plaît » tiré de son magnifique album « The Love Album ». Le problème de Sappho, c'est qu'elle est devenue un personnage de la comédie grecque après sa mort. En gros, la littérature s'en est emparée, et la légende aussi, à travers les siècles et les époques. Elle va être le modèle des femmes qui désirent s'affranchir de la tutelle des hommes, mais avant tout des créatrices, puisque c'est sa fonction première. Elle est poétesse, musicienne. Elle lutte contre cette suprême injustice. La femme est constamment dominée dans ses rapports avec l'homme et se retrouve exclue du champ de la création pour être confinée dans celui de la procréation. Après tout, elles ont le pouvoir d'enfanter. N'est-ce pas la création suprême ? Donner la vie ne vaut-il pas mieux que toutes les peintures ou toutes les musiques du monde ? Demandent les phallocrates de tous les pays réunis dans une fausse candeur, en tenant jalousement leurs femmes loin des chevalets ou des pupitres. Pascal Quignard, le formidable romancier de tous les matins du monde, pose la question dans un autre de ses ouvrages intitulé « La leçon de musique ». Pourquoi les femmes ont-elles si peu composé de musique ? Les femmes naissent et meurent dans un soprano qui paraît indestructible. Leur voix est un règne. Les hommes, eux, perdent leur voix d'enfant. À 13 ans, ils sont roux, chevrottes, belles. Les hommes sont ces êtres dont la voix casse des espèces de chants à deux voix. On peut les définir à partir de la puberté, humain qu'une voix a quitté comme une mue. En eux, l'enfance, le non-langage, le chant des émotions premières, c'est la robe d'un serpent. Alors, ou bien les hommes, comme ils tranchent les bourses testiculaires, tranchent la mue, c'est la voix jamais infantile, ce sont les castrats, ou bien les hommes composent avec la voix perdue, on les appelle les compositeurs. Ce que Pascal Quignard nous dit, c'est que l'homme, au fond, serait compositeur par dépit, parce qu'il a perdu sa voix d'ange. La femme, la gardant toute sa vie cette voix, n'a pas besoin de ce substitut. Elle vibre continuellement en jouant de ses cordes vocales.
Et voilà, moi, femme, j'ai une voix d'ange. Et bah du coup, je fais la voix de l'espace d'André Manoukian.
Et moi, homme, j'ai une voix cassée. Du coup, bah, je suis compositeur.
Hein. Ah bah, voilà l'égalité des chances.
Allez Elsa, soyez pas jalouse, vous avez le pouvoir d'envoûter vous.
C'est ça, ouais.
Après tout, la jouissance suprême, c'est de s'exprimer par le chant. Le pouvoir absolu, c'est celui des sirènes qui attirent les hommes jusqu'au naufrage. S'attacher pour ne pas sombrer dans les flots de la libido, c'est la ruse d'Ulysse qui a voulu jouir du sortilège du chant tout en préservant sa vie. Oh, comme il a regretté, comme il a sangloté, comme il l'aurait joyeusement jeté à l'eau sa vie pour s'abîmer dans les bras des sirènes, ces chanteuses suprêmes.
I'm a fool for that shake in your thighs. I'm a fool for that sound in your sighs. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. Oh, I know you're faded, but stay. Pool held in your arms, caught like a fool without a line. We're in a natural spring with this gentle sting between us. I wanna make this play. Oh, I know you're faded, but stay. Stay open.
Sur le piano, dites-nous, où est la fille? Où est le garçon?
Bon, alors c'est un peu cliché, Elsa. Hein, là. Alors évidemment, la fille, elle serait dans les notes aiguës. Hein,
parce évidemment.
Que... Voilà. Le garçon, il serait plutôt dans le grave. C'est un peu clichéman. Mais par contre, je vais profiter de ce vieux clivage pour ne pas parler du principe masculin ou du principe féminin, parce qu'il n'y en a pas en fait. Chaque musicien, chaque compositeur, si on écoute la psychanalyse de Jung, eh ben, c'est son côté féminin qui va explorer, puisque les motifs, l'affect et la chose artistique sont soi-disant le pendant féminin. Donc c'est pour ça que nous, les musiciens, on est cool avec, j'allais dire, la parité. On la porte vraiment en nous. Maintenant, fin du préambule. On va profiter de cet antagonisme masculin-féminin aigu, grave, pour aller vers une des musiques qui les mélange le plus et le mieux et le plus harmonieusement, ces deux principes, si ils étaient avérés en musique, le masculin et le féminin. Ça voudrait dire allier la rythmique, qui serait plutôt virile, avec la mélodie qui serait féminine. Mais ça, du coup, ça nous oblige à avoir une sacrée technique. On va essayer de décomposer le mouvement. La basse à la main gauche, l'accompagnement avec les deux doigts de la main droite et la mélodie avec les 3, 4, 5 de la main droite. Les Cubains, ils font encore plus compliqué. Ils font basse avec 4 et 5 de la main gauche, accompagnement avec 1 et 2 de la main gauche, un accompagnement rythmique en plus avec la main droite et la mélodie. Ils font à 4 voix. Nous, on va essayer de faire à 3 voix. C'est bien compliqué comme ça déjà. Alors, on va prendre le mouvement le plus simple qui soit, pour autant que la bossa nova soit un mouvement simple. Et ça l'est pas vraiment. On va essayer de sentir ce balancement. Allez, je décompose plus lentement. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut avoir ce sens-là, il faut le sentir en soi. Le décomposer, ça sert à pas grand-chose. Et puis là-dessus, je vais essayer de poser ma mélodie avec le 4 et 5 de la main droite. Voilà, j'ai quelque chose de très simple. Et j'essaye de faire que les parties se répondent et de temps en temps elles vont s'empiéter bien sûr, mais donc il faut vraiment, un petit peu à la manière de Bach qui faisait ses fugues à trois voix, commencer à dissocier ça. La mélodie elle est très simple, hein. J'essaye de pas aller trop loin pour pas que ma main droite soit complètement explosée, et qu'est-ce que je fais? Je monte simplement, je dégraine des notes conjointes, je recommence. Thank you.
vie continue. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une mélodie la plus simple qui soit. Et vous voyez que grâce à cette rythmique qui est à la fois lente, un petit peu chaloupée, je peux faire quelque chose d'extrêmement simple à la main droite. La mélodie, elle n'a pas besoin d'être très sophistiquée. Du coup, on retrouve, j'allais dire, toute la naïveté et tout ce qui fait la beauté de la bossa nova. Si je joue la mélodie que j'ai fait do, ré, mi, ré, fa, mi, fa, sol, mi. Et l'idée, c'est de monter comme ça, dégrainer la gamme. Mais tout le charme, tout le sel vient du mélange de cette mélodie finalement assez simple avec cette rythmique assez sophistiquée dans laquelle, entre chaque espace, chacun a sa part. Et c'est peut-être ça qui fait qu'un couple dure, c'est quand dans l'espace, chacun trouve sa place. Ça s'appelait ça déjà. Ah ouais, un homme et une femme.
Ten out of ten, you killed it once again, girls, you're doing fine. This is to show you just how much we need you in our lives. This place wouldn't be the same without you. You could say that it would be a little worse. But there's just something about you. With your ear, this all won't work. Oh. All the things.
how loved you are.
Une petite musique de nuit qui sent le sexe et le bourbon. C'est comme ça que parlent les In Rock du groupe Honey qui vient d'East London et qui nous chantait Woman.
André Manoukian, les routes de la musique sur France Inter.
Sappho, première femme libérée, est libératrice. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle va prendre en charge l'émancipation des jeunes filles grecques. Elles viennent de tout le pays pour apprendre la poésie, la musique et la danse. Elles sont initiées au mystère d'Aphrodite. L'idée, c'est de cultiver son éros par la recherche de la beauté, aussi bien du corps que de l'esprit. L'éros, c'est cette force qui nous élève du monde sensible au monde suprasensible, du monde matériel au monde spirituel. L'éros, c'est dans le monde quantique ce qui transforme la particule en énergie. L'éros, c'est peut-être ce que les philosophes allemands du 19e siècle ont appelé la volonté de vivre. L'enseignement de Sappho est pour les filles une véritable initiation à la liberté. Mais elle-même est déchirée lorsque les jeunes filles, une fois initiées, s'envolent de leurs propres ailes. C'est le sens de beaucoup de ses poèmes, cette contradiction entre l'apprentissage de la liberté et son usage, qui fait que le maître prépare l'élève à le quitter.
Installons-nous quelques instants sur les bancs de l'école Sappho et étudions ses poèmes. Enfin, non, pas ses poèmes, plutôt les fragments de ses textes qui ont réussi à traverser l'histoire.
Que reste-t-il donc de Sappho ? Quelques vers épars, pure merveille.
Il n'y a pas de texte. Hein. Ce que nous avons, ce sont des pépites. Et c'était surtout la tradition orale à l'époque. Il n'y a pas eu de livre. Donc, tout s'est reconstitué avec le temps. C'est une sédimentation longue. Et nous avons gardé, si vous voulez, des images. Quand il n'y a presque rien, par exemple, vous avez restant. Désir, sueur, rose, jeudi.
De la poésie contemporaine semble apparaître dans les bouts de vers retrouvés.
Ces fragments sont divins. Ils ont la fraîcheur des fleurs qui viennent d'éclore. Ils parlent de maisons dorées par le soleil, d'oiseaux attelés à des chars d'or.
Et les mots de Sappho chantent, suivant le vent ou le vol d'un oiseau.
Dans ces bribes, ces mots qui éclatent comme des bulles comme ça, il y a des sonorités, il y a des éclairages, il y a des choses qui sont perceptibles. Oui. On peut se promener dans cette forêt de mots. Des mots comme barbitos, baromos, barmos.
On se promène dans les mots de Sappho et on se retrouve dans une forêt sauvage.
Elle est un brasier qui ne s'éteint pas.
Dans cet admirable univers que constitue la littérature antique, Sappho est la seule voix féminine. Le seul regard de femme jeté sur un monde ancien que nous ne connaissons que par des hommes. Cette femme est une révoltée.
Et ça ne plaît pas à tout le monde, une femme qui se révolte.
Elle est aussi la première à avoir ouvert la lignée souvent tragique des accusés dans les procès que la morale fit au génie. Ses œuvres, lacérées, éparpillées, elle fut dépouillée de ses poèmes.
Mais heureusement,
si l'on peut, comme le corps d'un dieu, déchirer l'œuvre d'un poète, on ne peut pas tuer sa voix.
Et la voix de Sappho continue de voguer dans les temps, et elle ne clame pas que des chants d'amour, non ? Son combat est tout autre.
Oui, on a retrouvé d'elle des fragments beaucoup plus politiques. Fille d'aristocrate, de riche propriétaire terrien sur l'île de Lesbos, elle s'insurge contre l'hégémonie de quelques familles sur son île. La démocratie est en marche dans la Grèce du VIe siècle, contre les vieilles aristocraties. Et bien sûr, Sappho est au premier plan de ce combat. Mais le paradoxe de la démocratie, c'est qu'elle met en place les premiers tyrans, qui vont s'appuyer sur la nouvelle classe des marchands et des armateurs. Et c'est ainsi que Sappho va partir en exil en Sicile, comme l'atteste une statue d'elle trouvée à Syracuse. Au fait, à quoi ressemble-t-elle Sappho ? Elle est décrite dans un papyrus du 3e siècle avant Jésus-Christ comme laide, noire et toute petite. Dans un poème, elle parle de ses cheveux noirs qui commencent à blanchir et l'un de ses fragments laisse à penser qu'elle ne se considérait pas comme belle. You are so beautiful, ça c'est Joe Cocker qui le dit.
so beautiful.
Joe Cocker, you are so beautiful. Sappho a-t-elle été mariée ? Probablement, même si nulle part elle ne mentionne son mari. Par contre, elle a une fille dont elle fait l'éloge. Je possède une belle enfant dont la forme est pareille à des fleurs d'or. Cléis, la bien-aimée, que je préfère à la Lydie tout entière et à l'aimable. Oui, la phrase s'arrête là. Ce sont des fragments que l'on a retrouvés d'elle. Ses œuvres, transmises jusqu'au XIe siècle, ont été brûlées en 1073. Oui, en ce début de millénaire, en Occident, on a la flamme facile. En fait, dès sa mort, Sappho va être transformée en personnage scandaleux. On ne va reconnaître d'elle que la lesbienne, la femme qui aime les autres femmes, et en a fait un culte. Suivant les époques, on l'adule ou on la souille. Certains la traitent de prostituée, d'autres, pour préserver sa réputation de poétesse, inventent une deuxième Sappho, dite Sappho d'Érèse, joueuse de lyre et courtisane, quand d'autres encore lui attribuent une fonction éducative semblable à celle de Socrate à travers la religion orphique, dont elle serait une prêtresse. Orphée, c'est le mythe de la descente aux enfers. Par amour fou pour Eurydice qui vient de mourir, il décide d'aller la chercher aux enfers. Il réussit et la ramène à la vie, sauf qu'au dernier moment, il rompt la promesse qu'il a faite de ne pas la regarder avant d'arriver en haut. Et comme elle trébuche, il se retourne, la voit et la perd à jamais. Ce mythe va devenir une théologie initiatique. Aller en enfer, c'est aller explorer sa part sombre, c'est entrer dans son intériorité. Eurydice, la femme, représente l'anima de Jung, c'est-à-dire la part féminine que nous avons tous en nous et qui est le monde des émotions et de la création. Mais la mettre au grand jour, c'est la tuer. Un créateur qui analyserait son processus et son moteur de création risquerait de tuer l'inspiration inconsciente qu'il guide et lui fournit la trame des récits qu'il invente et qui sont autant de chemins pour sortir des enfers. La doctrine orphique est une doctrine de salut, marquée par une souillure originelle. L'âme est condamnée à un cycle de réincarnation dont seule l'initiation pourra la faire sortir, pour la conduire vers une survie bienheureuse où l'humain rejoint le divin.
Et tiens, quel hasard, quelle coïncidence, André. Savez-vous ce qu'est devenu le corps d'Orphée après sa mort ? Eh bien, on a retrouvé sa tête accostant sur les rives de Lesbos.
Oui, oui.
Lesbos est une terre de poètes.
depuis que, dit le mythe, la tête d'Orphée, arrachée et décapitée, a été jetée dans le fleuve et descendue dans la mer Égée pour venir aborder avec la lyre, et la tête chantait toujours, la bouche ouverte, la voix d'Orphée, à aborder à l'île de Lesbos, où il s'est constitué un sanctuaire. Le don de poésie est passé à Lesbos.
La tête mourante d'Orphée a donné son dernier chant à Lesbos. Et aujourd'hui encore, il résonne sur l'île, accompagné des cris de Sappho.
Nous possédons de cette époque, de cette île, un trésor d'une rayonnante beauté. Et plus chargé d'émotions encore que le plus admirable objet de marbre ou de céramique, 650 vers environ, cris d'amour, de révolte et d'angoisse, jaillit pour la première fois d'une bouche grecque, et cette bouche était celle d'une femme, Sappho.
Sappho casse les codes, elle initie, elle ouvre la voie de l'art aux femmes qui étaient exclues du champ du savoir. Sappho, contrairement à Orphée qui endormait les bêtes sauvages avec sa musique, réveille nos pulsions libératrices et les conventions qui étouffent toute velléité de création. Sappho, c'est l'esprit de mai 68 au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est le flower power, c'est l'émancipation de la femme.
Et Sappho arrive et elle vient clamer son poème, le cycle des amis, à ses amis de mai 68.
J'avais crié vers toi, et quel désir en moi devait être assouvi en mon cœur affolé.
Nous faisons la grève contre la situation qui est faite aux femmes dans cette société, dominée par les hommes, et cette société capitaliste aussi.
Mes recours aux tourments nauséeux, au fléau de l'angoisse pour me dompter le cœur.
Toutes les femmes du monde partent lutter ensemble. Panthée n'en revient pas. Tous les Robert en restent quoi ? La révolution des femmes envahit les mondes et les temps.
C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes.
Quelle amie, ô Sappho, te porte préjudice ?
On propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari ? Et si je m'arrêtais de travailler 15, 16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait ? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler comme des serfs.
Des cris à l'unisson transpercent l'espace-temps et arrivent à nous. Liberté, égalité, sororité.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, sororité ?
Bah, c'est fraternité, mais avec sœurs.
Viens à moi. Et maintenant encore, du poids de l'angoisse, délivre-moi. Tous les désirs de mon cœur passionné, accomplis-les. Et toi, maîtresse, sois combattante à mes côtés.
C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. Y en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur vie, de leur vie, de leur maison.
Ainsi chantent en chœur les voix de femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. André, vous chantez avec nous.
Avec plaisir Elsa. En fait, c'est un combat sans cesse à recommencer. Mais Sappho, c'est surtout une poétesse exceptionnelle qui disait « J'écris mes vers avec de l'air ».
Take me to heart and I'll always nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving love unsure. Makes willpower weak and temptation strong. Should understand she's not just a plaything, she's flesh and blood just like her man. If you wanna do right, whole day, this woman, a plaything. She's flesh and blood, just like a man. If you wanna do right, hold the right woman, you gotta be a do right.
Et voilà, c'est ainsi que cette émission s'achève. À la prise de son, Sister Anne-Laure Cochet. À la réalisation, Sister Fanny Bouillon. La voix des anges, Sister Elsa Denac. Sister Muriel Pérez était à la somptueuse programmation. Quant à moi, Sister André, eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.